Chapitre 14e. L'atelier était éclairé d'en haut par trois verrières, aux vitraux cintrés. Les murs étaient recouverts de tapis persans et de grands panneaux de soie japonaise, où, sur un fond noir, étaient brochés des personnages de couleurs vives et des dragons d'or aux croupes tourmentées. À l'extrémité s'élevait une sorte de petit temple en bois de fer découpé à jour, laissant voir au fond un grand Bouddha de bois doré. Le long des murailles s'alignaient des divans bas, puis des cabinets de vieux lacs supportant une jonque d'ivoire sculpté ou un grand ibis d'émail cloisonné. Dans un angle, une harpe de bois d'ébène en forme de delta faisait luire ses cordes de métal. Un petit lit en bois de santal incrusté était recouvert d'une peau de tigre. Au milieu, sur un trépied, se tenait un modèle vêtu du costume carthaginois. Henri, debout devant un grand cheval et à rouet, peignait une scène de Salammbô. Cette idée lui était venue en lisant l'œuvre de Flaubert. Il avait pris pour thème le passage du livre où Salammbô, fille d'Amilcar, chante les louanges des astres sur la terrasse de son palais de Carthage. Le temps s'était écoulé depuis ses premières entrevues avec Souleyma, et comme l'avait prévu Claude Janet, la petite Syrienne était devenue l'amie du peintre. Hakem étant parti pour faire des achats dans le Levant, Henri avait continué de visiter sa maison. Les jeunes gens s'étaient plus profondément pénétrés, loin des regards du père. La vieille servante, qui avait nourri la petite, cédait à tous ses caprices. Elle s'était montrée indulgente à tel point qu'elle avait permis à Souleyma de satisfaire une folle envie, celle de visiter l'atelier de Henri. Ça avait été pour l'enfant un plaisir qui ne saurait se comparer. Ce nid d'artiste, où tout était mis en valeur par une disposition savante, où l'on marchait sans bruit sur les tapis épais, où la lumière douce, tombant d'en haut, donnait l'illusion d'un sanctuaire, lui semblait un lieu paradisiaque. Elle aurait voulu y trôner comme l'idole hindoue qui se dressait dans le clair-obscur du petit temple. Admirant tout, elle s'était assise sur tous les divans, avait manié tous les bibelots, ouvert les moindres compartiments des cabinets japonais, essayé les petits souliers des chinoises, fait vibrer les cordes de l'harpe et laissé éclater une joie d'enfant adoré à qui l'on permet toute chose. Henri lui avait parlé de son art, de son projet de tableau pour le prochain salon et de la difficulté qu'il éprouvait à trouver un modèle. Et subitement, prise d'une idée originale et hardie, elle lui avait demandé de poser devant lui assurant qu'elle serait docile, obéissante et que ce serait pour elle un bonheur inconnu de se voir admirer au salon dans le tableau de son ami. Henri n'avait pas osé, ou plutôt n'avait pas eu la force de lui refuser. Voilà pourquoi le modèle posant dans l'atelier n'était autre que la petite Syrienne. Elle était vêtue, selon la description faite par Flaubert, du costume de Salammbô. Sa chevelure était réunie en forme de tour, selon la mode des vierges cananéennes. Des tresses de perles attachées à ses tempes descendaient jusqu'au coin de sa bouche, rose comme une grenade entrouverte. Il y avait sur sa poitrine un assemblage de pierres lumineuses imitant par leur bigarrure les écailles d'une murène. Ses bras garnis de bijoux sortait nu de sa tunique sans manches, étoilée de fleurs rouges sur un fond noir. Un grand manteau de pourpre sombre traînait derrière elle. Elle portait aux chevilles deux anneaux reliés par une chaînette d'or pour régler sa marche. On accoutumait, dit Flaubert, les vierges dans les grandes familles à respecter ces entraves comme une chose sacrée. Elle se tenait ainsi sur le trépied d'ébène, les bras élevés et la tête renversée sous la lumière du vitrail. Souleyma était bien belle dans cette attitude. Son profil un peu arqué et ses bras aux lignes pures avaient des blancheurs d'ivoire. Henri sentait une flamme inconnue. Était-ce la passion ou le génie? Il travaillait sans relâche à son œuvre, voyant avec joie sa Salammbô sortir peu à peu du néant. Chaque jour, la fille de Hakem revenait prendre sa pose. Heureuse de voir son amie l'admirer comme une déesse antique, son visage prenait une expression de béatitude infinie et ses regards brillaient de lueurs étranges. Il lui semblait qu'elle était le génie du peintre, la divinité qui allume la flamme sacrée dans le cœur des hommes. Une fois, comme le jour tombait, Henri avait arrêté son travail, et cependant Souleyma restait debout sur le trépied. Ses yeux étaient agrandis par un cercle de bistre. Ses lèvres entrouvertes semblaient appeler un baiser dont elle ne voyait pas les lèvres. Son sein soulevait les pierres de son cortège étincelant dans la demi-obscurité. Le jeune homme la contempla longtemps ainsi, puis, pris de fièvre, attiré par une force invincible, il tomba à genoux devant elle, posant sa tête sur ses petits pieds et disant d'une voix chaude « Que tu es belle !» À ces mots, qui étaient attendus et continuaient son rêve, elle répondit « Aime-moi, aime-moi !» Il s'était relevé et avait saisi sa taille souple. Elle ferma son bras autour de son cou et laissa tomber sa tête sur son épaule. La chambre s'emplissait d'ombre, le Bouddha seul jetait une lueur dorée au fond de sa pagode. Henri ne voyait plus rien, mais il sentait la poitrine de Souleyma battre contre la sienne et ses lèvres se poser sur son cou. Elle s'était renversée, inerte, dans ses bras. Il se sentit fou, sa tête brûlait. Un frisson lui secouait tous les membres. Il l'enleva, le couvrant de baisers ardents et disparut derrière les portières du petit temple. On n'entendit plus rien. Une faible lumière brillait dans une lanterne de cuivre ciselé pendue aux solives du plafond et jetait une lueur rouge sur tous les reliefs. Les tentures s'agitèrent et la fille du Hakem apparut. Elle foulait sans bruit le tapis de ses pieds nus. Sa chaînette ne réglait plus sa marche. Elle était brisée comme celle de la fille d'Amilcar quand elle sortit de la tente de Mato. Henri, assis sur un divan, tenait sa tête penchée dans ses mains. Elle s'approcha, s'agenouilla devant lui et dit tout bas « Qu'as-tu, mon ami ?» Il pleurait. Il pleurait sa chimère et son orgueil. Elle ne lui faisait pourtant aucun reproche, ne lui disait aucun regret. Il lui avait tout pris, mais tout n'était-il pas lui dès l'heure où elle l'avait aimé ? C'était plus que son ami, c'était maintenant son maître. Il s'étonnait de le voir pleurer. Elle sécha ses larmes sous ses baisers, mais lui ne la voyait pas. C'était l'image de Marthe attristée, qui se dressait devant ses yeux, et un remords lui entrait au cœur comme un fer rouge. Ses pensées vacillaient. Il lui semblait que la flamme venait de s'éteindre à jamais dans son âme, comme la lampe d'une chapelle profanée.